a besoin d'enregistrer l'accent des indigènes dont je suis, hein, donc, et en français. Alors, je vais être amené à... Vous n'enregistrez pas encore, hein? Ah bon, ouais. Je vais être amené à transformer un peu le plan de mon cours, c'est-à-dire que le travail que j'ai commencé la semaine dernière, hein, sur le dramatis personae que je vous faisais en espagnol, nous allons le laisser de côté, et je vais vous parler donc du dernier thème introductif à l'étude de notre pièce, c'est-à-dire, je voudrais vous dire donc en français, aujourd'hui, quelques mots relatifs au thème de la femme dans le théâtre Lopesque, ce qui nous conduira tout naturellement, bien sûr, à étudier ultérieurement le personnage féminin de notre comédie. Je parle, ça va, je parle pas trop fort. Bien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, laissons de côté le dramatis personae, nous y reviendrons ultérieurement. Je vais donc vous parler du thème de la femme dans la production dramatique Lopesque. La comédie qui va faire l'objet de notre étude cette année, Le chien du jardinier, a été, pendant longtemps, je crois vous l'avoir déjà dit cela, a été connue sous le titre La Condessa de Belflor. Ce titre, La Condessa de Belflor, me paraît significatif. En effet, il suffit déjà à nous montrer que le personnage principal de la pièce va être un personnage féminin, la Condessa de Belflor. Ce titre nous montre d'ores et déjà, n'est-ce pas, que nous allons avoir affaire à, comme personnage, comme protagoniste principal, à une femme. En effet, Diana, la Comtesse de Belflor, est, vous l'avez déjà, je l'espère, vous êtes rendu compte en lisant la pièce, Diana est le personnage principal de la pièce, et auprès d'elle, les autres personnages, et en particulier les personnages masculins, paraissent pour le moins falots. C'est le moins que l'on puisse dire. Cette importance du personnage féminin dans Le chien du jardinier constitue un trait original de la pièce. Un trait original parce que l'importance du personnage féminin dans cette pièce contraste avec ce que nous disions la semaine dernière, c'est-à-dire en contraste avec la structure stéréotypée de la Commedia Nueva. Hein, rappelez-vous ce que je vous en ai dit, la Commedia Nueva, qui se caractérise, entre autres, par une schématisation des personnages. C'était ce que j'étais en train de vous montrer la semaine dernière. L'étude analytique, puis synthétique de la pièce que nous allons faire prochainement, va nous permettre de mettre l'accent sur ce trait original, l'importance de la femme. Mais pour bien en comprendre le sens, pour bien comprendre la portée de ce trait, il est bon, me semble-t-il, que je vous dise d'abord quelques mots, que je me penche, que nous penchions ensemble sur le problème que pose dans la comédia Lopesque en général, et pas exclusivement dans Le chien du jardinier, le personnage féminin. Quand on considère dans sa globalité le théâtre de Lope de Vega, et je vous ai parlé, n'est-ce pas, de la quantité impressionnante de pièces qu'il a écrites, eh bien, si on considère cette production dramatique impressionnante, on constate que le théâtre Lopesque traduit, un, grosso modo, bien évidemment, traduit un préjugé favorable, même souvent très favorable, à l'égard de la femme. À la fin du XVIe siècle, époque à laquelle Lope de Vega commence à écrire, et au début du XVIIe siècle, qui est la période de la pièce que nous allons étudier, eh bien, il y avait en Espagne un débat à la mode, un débat en vogue, un débat sur les vertus et les défauts de la femme. Ce débat sur les vertus et les défauts de la femme n'était pas particulièrement nouveau. Ce débat, n'est-ce pas, on le trouve déjà dans l'Antiquité gréco-latine, vous l'avez également au Moyen-Âge. Et hélas, je crois pour vous, mesdemoiselles, cette question se pose encore aujourd'hui. Et il faut reconnaître que dans ce débat, Lope de Vega adopte dans son théâtre, il aborde ce débat et il adopte une position très originale pour son époque. Pourquoi originale? Eh bien tout simplement parce que la position de Lope de Vega à l'égard de la femme est une position très favorable. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne trouve pas, et vous l'avez constaté, j'espère, en lisant Le chien du jardinier, n'est-ce pas, que l'on trouve en son théâtre des arguments misogynes, hein, des arguments anti-féministes, vous les avez certainement observés. En effet, Lope, favorable à la femme, Lope dans son théâtre n'abandonne pas l'attitude satirique, l'attitude traditionnellement hostile à la femme que vous trouvez par exemple dans la littérature latine, hein, chez Juvénal. Vous avez peut-être entendu parler de Juvénal, n'est-ce pas, qui a une vision des femmes pour le moins sévère, et vous avez dans l'Espagne du siècle d'or, hein, l'auteur, à mes yeux, le plus original, le plus antiféministe, le plus misogyne de toute littérature, qui est Quevedo. Hein. Quevedo, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, n'aimait pas particulièrement les femmes. Il s'est marié très tard, il a attendu beaucoup, n'est-ce pas, hein. Je crois qu'il s'est marié vers 40 ans. Et sa femme, je crois qu'il l'a dû la garder une huitaine de jours. Il n'a pas pu la supporter davantage, n'est-ce pas. Et toute sa littérature, n'est-ce pas, est une littérature hostile, bien sûr, à la femme. En revanche, Lope est favorable, mais il n'abandonne pas les traits satiriques. Hein. En effet, s'il recourt, comme d'autres, à son époque, à des traits satiriques, il faut observer que dans son théâtre, et vous l'avez dans Le chien du jardinier, les traits satiriques décochés contre les femmes, qui les décoche? Par qui sont-ils décochés? Eh bien, les traits satiriques sont décochés par les graciosos, c'est-à-dire par les personnages comiques. J'insiste là-dessus. Et dans le théâtre lopesque, et nous allons le voir dans Le chien du jardinier, le personnage qui exprime des jugements négatifs vis-à-vis de la femme, le personnage qui exprime le point de vue défavorable à la femme, qui est-il? C'est le gracioso. C'est la figura del donaire, c'est-à-dire un personnage, j'y reviendrai lorsqu'on va reparler du dramatis personae, un personnage exclusivement théâtral. Et quand le gracioso se livre à ce travail de satire de la femme, quand il se livre à ce travail de dépoétisation de la femme, eh bien, cela ne correspond pas à une position du dramaturge, en l'occurrence de Lope, cela répond avant tout à une exigence théâtrale. Je m'explique. Face à la conception de la femme qu'a le galant, qu'a le jeune premier, une conception poétique. Hein, Théodore va dire dans notre pièce à propos des femmes, « Son todas cristallines hein, ». Face à la conception poétique, je dirais même poétisante, de la femme, exprimée par le galant, le gracioso exprime en contrepoint, il y a toujours ce contrepoint dont je vous ai parlé, il exprime en quelque sorte un aspect d'un courant de pensée de son temps. Il faut donc voir dans cette satire de la femme par le gracioso le résultat non pas d'une position du dramaturge, mais le résultat d'une sorte de loi structurelle de la comédie. C'est-à-dire que le gracioso doit compléter et compléter a contrario. Il prend le contre-pied, le gracioso. Et il doit compléter a contrario la vision du monde, une vision qui est proposée par le personnage poétique qu'est le galant. Vous avez d'un côté le personnage poétique qui est le galant, de l'autre côté le personnage prosaïque, hein, à ras de tierra, pédestre, hein, qui est le gracioso. Et dans la comédie, n'oubliez jamais qu'il y a toujours deux niveaux. Vous avez le niveau de la grandeur, une grandeur qui peut être même tragique, et vous avez le niveau du comique, hein, qui peut être ridicule. Hein. Il y a, si vous voulez, toujours un cloisonnement, il y a un cloisonnement social entre le maître et son voilé. Eh bien, ce cloisonnement social s'accompagne d'un cloisonnement esthétique. Il y a, d'une part, la vision idéalisée du monde de la part du gracioso, donc une vision idéalisée de la femme, de la part du gracioso, que dis-je, de la part du galant. Et de l'autre, vous avez le contrepoint comique, hein, exprimé par le gracioso. Donc le rôle, je dis bien le rôle, voilà pourquoi je vous ai parlé de loi structurelle de la comédie, et le rôle du gracioso, qui a une vision terre-à-terre du monde, une vision prosaïque du monde, eh bien son rôle consiste à dépoétiser et face à l'amoureux, au galant qui poétise, eh bien il faut quelqu'un hein, qui est dans les nuages, eh bien il faut quelqu'un qui ait les pieds sur terre et qui reste en contact avec les réalités de l'existence. Et c'est le gracioso. Je vous fais observer, puisque cela fait partie, n'est-ce pas, je crois, de votre programme, hein, que vous avez cela dans la Célestine. Hein, dans la Célestine, n'est-ce pas, hein, cette fonction dépoétisante. Hein, vous avez d'un côté Calixto, et de l'autre côté le monde des maîtres, et de l'autre côté vous avez le monde des valets, n'est-ce pas, qui dépoétisent, n'est-ce pas, cette vision de la femme et du monde qu'a Calixte. Aussi, conséquence de ceci, n'est-ce pas, pouvons-nous dire, me semble-t-il, que la critique gagnée, la critique de la femme dans le théâtre lopesque est due non pas à sa propre conception de la femme, il aurait mauvaise grâce, je vous fais l'économie, n'est-ce pas, de la vie sentimentale de Lope. Hein, Il a eu, il a aimé, il a fréquenté les femmes, n'est-ce pas? C'est de lui qu'il disait, n'est-ce pas, que pour guérir de l'amour d'une femme, eh bien, rien ne vaut l'amour d'une autre femme. Et il a mis cela en application. Donc, la critique de la femme que nous trouvons dans ce théâtre n'est pas due à sa conception de la femme, mais à une fonction purement théâtrale du personnage qui formule cette critique, c'est-à-dire le Gracieuse.